Bonjour, ou bonjour. Nous allons aborder maintenant un autre débat à propos de l'écriture masculine. C'est vrai que très souvent, on parlera de... Il y a eu de nombreux débats dans les conventions de science-fiction sur l'écriture féminine, mais on a très peu parlé de l'écriture masculine. Et donc, avec moi, j'ai des auteurs très représentatifs. Ariane Gélinas, qui est donc directrice littéraire de la revue Le Sabor, auteure, bien sûr, coéditrice de Brin d'éternité, c'est-à-dire qui a aussi travaillé pour Solaris, doctorante en lettres chargée de cours à l'Université du Québec.
À Trois-Rivières.
Et puis, auteur, notamment les cendres de Sedna et l'île des naufrageurs qui a eu le prix Aurora. Avec aussi une trilogie des villages assoupis qui concerne donc tous ces petits villages abandonnés au Canada. Nous restons au Canada avec Michèle Laframboise, auteure et dessinatrice, qui a donc aussi fait une douzaine d'albums de bande dessinée, que l'on a vu dans Solaris, Galaxy, on a été d'ailleurs au sommaire d'un numéro.
Oui.
Qui travaille aussi pour Géante Rouge. Et elle est traduite en italien, en allemand, en russe. Et elle a une formation de géographe et d'ingénieur.
Alors, oui. Nous avons...
On peut citer quoi ? La Reine Margot, le
Vent pour... La Reine Margot n'est pas science-fiction.
N'est pas de science-fiction.
C'est Mika, fille de Transil, les voyages du Jules Verne, le vaisseau. Et La quête de Chaas sont mes ouvrages de science-fiction que j'aime bien. Puis j'ai un ouvrage adulte qui est L'écologie d'Audi. Audi étant un dieu, là, mais dans une dystopie. Alors, je suis aussi une savante folle. Voilà.
Sylvie Lainé, qui est donc professeure en sciences de l'information et de la communication. Auteur notamment de nouvelles très remarquées, très souvent primées. Il y a quoi ? Deux Grands Prix de l'Imaginaire, quatre Rosniennés, quatre autres prix, aussi traduits en plusieurs langues. Les petits recueils, Marouflage, Le Miroir aux Éperluettes, Espace Insécable, tout ça, se retrouve juste pour cette édition des Utopiales en un seul gros volume chez ActuSF. Catherine Dufour, ingénieure en informatique aussi. Chroniqueuse au monde diplomatique. Alors toute la sensibilité et la délicatesse féminine s'expriment dans ses romans, comme Le vrai goût de l'immortalité, auréolé de quatre prix également, Otage et rébellion aussi, et L'accroissement mathématique du plaisir, et en même temps, auteur d'une tétralogie de fantasy qui revisite l'univers des contes de fées, Quand les dieux buvaient, c'est le titre générique. Et dans la même veine aussi, sans faire forcément de roman, elle dénonce les mensonges que l'on fait pour les petites filles sages, donc en rédigeant notamment un guide des métiers pour les petites filles qui ne veulent pas devenir princesses. Et elle se veut aussi historienne, dans une veine un peu plus réaliste que le roman historique national, avec une histoire de France pour ceux qui n'aiment pas ça, que je peux vous recommander chaudement, et une vie sexuelle de Lorenzaccio, un tout petit peu moins romantique que la pièce de Musset. Et puis Sarah Dock, qui est donc auteure, traductrice, multicarte dans tous les domaines de l'imaginaire, qui est aussi anthologiste et qui a aussi organisé des manifestations. Bon.
Et qui, bien que je n'ai écrit qu'un seul livre et surtout des nouvelles, je suis quand même traduite en cinq langues.
Et traduite en cinq langues, voilà. Bref, alors, j'ai commencé par regarder sur Google pour avoir des renseignements sur l'écriture masculine. Et sur Internet, il n'y a pas moyen d'en obtenir. La recherche Google, sur ce thème, tout de suite, elle se met à comparer l'écriture masculine et féminine en donnant toujours les caractéristiques de l'écriture féminine, uniquement, pour voir en quoi ça se différenciait d'une écriture masculine, mais sans jamais nous donner les éléments de base qui nous permettraient de savoir qu'est-ce que c'est qu'une écriture masculine. Donc, pour avoir un aperçu objectif, il valait mieux s'adresser à des spécialistes qui savent ce qu'écrire veut dire. Alors donc, j'ai envie de demander la première qui veut prendre la parole pourra le faire. En quoi se caractérise l'écriture masculine ?
Bon, bonjour à toutes et à tous. Moi, je me souviens, il y a bien longtemps de ça, plus de 10 ans, j'avais écrit Blanche-Neige et les lance-missiles. Et c'est un livre de fantasy qui avait bien plu. Et ici même, aux Utopiales, il y a un fan de SF venimeux qui m'avait dit « C'est bien ton petit livre de fantasy. Quand est-ce que tu nous écris un vrai livre ?» Voilà, c'est-à-dire un livre de SF. Hein, parce que la fantasy, c'est une littérature pour femmes de droite, alors que la SF, c'est une littérature pour hommes de gauche. Donc, j'ai décidé d'écrire un vrai livre de SF. Donc, un livre pour garçons, c'est-à-dire pas de sentiments, du sexe, de la politique, de l'art science. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et surtout que ce soit le plus possible incompréhensible. Voilà pour moi les caractéristiques de la SF pour les hommes.
Ça commence très fort.
Ce que je trouve intéressant là-dedans aussi, c'est que ça part beaucoup du lecteur, je dirais, parce qu'on a quand même un certain nombre d'auteurs qui ont écrit sous pseudonyme, et puis on ne connaissait pas leur sexe. Et puis, ça nous donne, comme lecteur, on dirait qu'on part avec, justement, peut-être pas tout à fait un préjugé, mais quelque chose du genre. Et puis, je pense à une série que j'ai lue qui s'appelle Anne Bliston. C'est publié au Québec. Et puis, dans cette série-là, au début, tout le monde disait, après avoir lu les 3 tomes, c'est certain que c'est un homme qui l'a écrit. Puis là, il disait, par exemple, l'érotisme, la façon dont c'est présenté, c'est sûr que c'est un homme. Ouais. Pour le 4e tome, eh bien, on a appris que c'était une femme qui avait écrit Anne Bliston. Alors, il y a quelque chose vraiment qui part beaucoup du lecteur dans la perception de qui, des gens, oui.
Mais pas seulement du lecteur, parce qu'il y a eu l'histoire de Catherine Moore, qui signait John Tiptree.
Oui, les pseudos.
Donc,
c'est Alice
Sheldon, non? Non, c'est Catherine Moore. Et tout le monde encensait John Tiptree comme un auteur, James Tiptree comme un auteur profondément masculin, jusqu'au jour où ils ont découvert que non, c'était une femme.
Donc, c'était plus de la vraie. Ça, c'est l'autre caractéristique. Moi, j'ai grandi, là, vraiment, les années 70. Les gars, ils n'écrivaient de la vraie. Puis, quand t'étais une fille, t'essayais juste d'imiter ceux qui faisaient la vraie. Alors, 3 caractéristiques, j'ai pris des notes. Premièrement, c'est des grandes structures. On a le cylindre de O'Neill, les sphères de Dyson, des grandes machines, des grands défis. La terraformation, on transforme tout ce qu'on voit. Puis on a des grandes récompenses. On épouse la fille du prince, du roi, ou ben, on devient immortel et maître de la galaxie. Donc, généralement, le tout avec une résolution fermement ancrée dans l'action, le conflit, la violence, la raison du plus fort. Alors, plus tard, si on a la chance, on va pouvoir noter quelques auteurs, parce qu'il y a du très bon. Hein, on ne le dit pas, moi, je ne dis que du bien, il y a du très moins bon, disons, parce que ça dépend de l'époque. Donc, des préjugés ambivalents, des préjugés qui prévaut. Des préjugés qui prévalent à l'époque de l'auteur. Voilà.
Oui, ben déjà, moi, je trouve ça très intéressant que, de même que dans la grammaire, c'est le masculin qui est le neutre, et donc qui devient la norme, personne ne définisse ce qu'est l'écriture masculine. C'est quand même étonnant quand on pense que, globalement, il y a autant d'auteurs femmes que d'auteurs hommes. Si on ne réduit pas à la science-fiction, si on parle en général, et pourquoi est-ce qu'on parle de l'écriture féminine sans définir ce qu'est l'écriture masculine? Donc c'est la première occasion peut-être qu'on a de le faire. C'est génial, on a de la chance. Et donc on risque d'être obligé de travailler en creux, puisque. Ça veut dire qu'on considère que la norme est la position dominante. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de le prendre. Parce que, d'abord, moi, j'ai pas envie de prendre le débat sous la question du sexe. Je pense pas que nos organes génitaux aient quoi que ce soit à voir avec la manière dont on écrit. Par contre, c'est intéressant de le prendre sous la question du genre. Et si on le prend sous l'angle du genre, il y a des valeurs qui sont considérées comme positives et qui sont pas les mêmes selon qu'on est en position d'homme ou de femme, et peut-être même de dominant et de dominé. depuis tout petit, on apprend aux petits garçons que c'est bien d'être le chef, que c'est bien d'être entreprenant, que c'est bien d'être courageux, qu'il ne faut pas trop manifester ses émotions. Il y a tout un tas de choses qu'on inculte aux garçons pour que ce soit des vrais garçons. Il n'y a d'ailleurs qu'en France, enfin je ne sais pas ce que vont dire nos camarades canadiennes, mais il n'y a qu'en France que la question du genre fait tellement peur en tant que manière de poser le problème que c'est complètement déformé et retourné par tout un tas de gens que ça angoisse, qui disent, dès qu'on prononce le terme de genre, donc dès qu'on évoque la question sous l'angle d'une construction sociale qui a été véhiculée par l'entourage et qui est perpétuée, dès qu'on la pose sous cet angle-là, il y a des gens qui commencent à dire « Oh là là, dans les écoles primaires, on va obliger les garçons à jouer avec des poupées. Oh là là, on va leur apprendre à se masturber en classe. » Mais on lit des trucs mais invraisemblables, rien que quand on ose proposer le terme de genre. D'ailleurs, c'est complètement idiot de parler de théorie du genre. Prendre la question de la différence homme-femme sous l'angle du genre, c'est le prendre autrement que par la question de la sexualité et des organes génitaux, et le prendre en tant qu'identité construite par un social. Et si on le prend sous cet angle-là, il est clair que les valeurs que l'on considère comme positives chez un homme et chez une femme, ce n'est pas les mêmes. Et on trouve qu'une femme... et elle y sera obligée, si elle ne l'a pas compris assez vite, elle sera bien obligée de l'apprendre, qu'une femme, pour bien s'intégrer dans la société, doit être ouverte aux attentes et aux besoins des autres, des dominants, bien sûr, des hommes. Elle doit respecter, elle doit créer l'harmonie, elle doit favoriser le confort et le bonheur de ceux qui l'entourent. On la conditionne à cette fonction très vite. Heureusement qu'il y a au moins la moitié de l'humanité qui se soucie de ça. Dans la science-fiction, qui est majoritairement masculine, je trouve qu'on a un rapport aux autres qui est un rapport de colonisateur, très souvent, et un rapport de dominant-dominé. C'est-à-dire que je suis très frappée par le fait que dans énormément de romans de science-fiction, des humains vont sur une autre planète et très vite... la planète sur laquelle ils vont, tout le monde apprend à parler leur langue. C'est bien, hein ? C'est économiquement peut-être pas très raisonnable, et peut-être pas très... Mais quand les femmes écrivent, seuls les explorateurs vont avoir le souci de comprendre la culture et de maîtriser le langage de ceux chez qui ils vont. Le rapport à l'autre est fondamentalement différent. Donc la culture masculine... a une dimension de domination et d'agression qu'on a fini par incorporer à la science-fiction dans son principe. Mais non, la science-fiction, ça peut être autre chose.
Et quand on prend les choses en creux, comme tu dis, ça devient profondément insultant pour ces messieurs. Puisqu'on parle d'écriture féminine et on va parler de sensibilité, on va parler de psychologie des personnages, on va parler d'ouverture, on va parler, comme tu dis. Ça voudrait dire donc que l'écriture masculine est insensible, incapable de psychologie, incapable de regarder une société autrement que dans la domination. Et donc, on en revient à insulter les auteurs.
Ceci dit, quand on fait des tables rondes sur la science-fiction féminine, ou même quand on a des réactions de lecteurs, moi je ne compte plus le nombre de fois où des gens qui ne m'avaient jamais lu ont dit « Oh oui, mais les trucs gentils, un peu poétiques, pour peu que quelqu'un ait dit « joli » ou un mot de sottise », ça devient extrêmement méprisant aussi.
En 2000 est sortie une anthologie de textes féminins qui s'appelle « Cosmic Erotica », où étaient réunies 17 femmes auteurs du monde entier autour du sexe et de l'amour. Et énormément d'auteurs, j'en ai parlé avec elles après, énormément d'auteurs femmes ont choisi de parler de sexe et de le faire d'une manière parfois même très violente parce qu'elles avaient peur qu'on les classe dans le fleur bleue. Quand un homme raconte une histoire d'amour, il est sensible. Quand une femme raconte une histoire d'amour, c'est à l'eau de rose.
Michel, Michel.
Oui, c'est moi, je suis arrivée avec des petits exemples pratiques parce que je suis très, très pratico-pratique. Et en passant, j'ai été longtemps considérée comme un auteur fleur bleue, avec mes bandes dessinées surtout. Là, j'étais sage, très sage. Comme je vous l'ai dit, on a du pire selon le conditionnement. Alors, dans le pire que j'ai lu, et non, j'ai pas lu les John Norman, sauf en partie.
La série de Gore.
Ouais, les Gore. Femme, soumets-toi! Non, j'ai pas lu ça. Ça, c'est d'ailleurs de la réaction. J'ai lu des David Fentuck, qui est un monsieur qui a l'air bien sympathique, avec des vaisseaux qui fonctionnent au système DOS. Au 30e siècle, quelque chose comme ça. Lui, je l'avais lu parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient dans la psychologie du héros, mais là, je me suis aperçu peu à peu qu'il y avait, malgré en apparence, la société n'a pas de sexisme dans cette société-là, mais là, tu t'aperçois, plus tu le lis, plus tu t'aperçois, bien, finalement, c'est les gars qui font les choses, et puis les personnages féminins sont soit faibles, ou s'ils sont forts, ce sont les traîtresses. Puis le héros est obligé de les tuer lui-même. Et là, après trois romans de ça, je me suis tannée. Désolée. C'est dans le temps que je lisais beaucoup. Maintenant, on a du meilleur. Enfin, on a ce qui s'améliore. On a notre ami David Weber. Lui, David Weber, c'est les Honor Harrington. J'ai trippé parce que c'était une madame forte. Mais là, je me suis aperçue peu à peu que Honor, en fait, c'est que David, il voulait faire un roman avec un homme en vedette. Et puis, je sais pas, il a changé d'idée à la dernière minute. Et puis, Honor est devenue une femme. Et plus tu lis cette histoire-là, l'héroïne a fait tout, là. Tu sais, elle réussit tout. S'il y avait un concours de tarte au citron, elle réussirait aussi. Elle est bonne dans tout. Puis, à un moment donné, tu t'aperçois, ben, c'est comme la Vierge Marie. C'est un modèle inaccessible pour toutes les lectrices. Enfin, je ne dis pas, le Honor, elle mesure genre 6 pieds 2. Elle est forte, elle peut soulever 3 hommes parce qu'elle a grandi sur une planète à forte gravité. Enfin, patati patata. Elle sauve tout l'univers, ou presque, là. Bref. Juste pour continuer, parce que là, je vais quand même vous donner du positif. On a rendez-vous avec Rama, qui était une histoire avec une grosse machine inconnue. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a une grande qualité. Je vous ai dit souvent, c'est le héros qui fait tout et les autres ne sont que des faire-valoir. Dans Rendez-vous avec Rama, on a le contraire. On a un équipage et à peu près chaque personne dans le roman a un petit moment sous les projecteurs. C'est juste que c'est difficile de s'attacher au personnage parce que il y a de la psychologie, mais très peu. Alors, c'est vraiment l'exploration du grand vaisseau qui est l'intrigue de cette histoire. Et puis, juste pour à revenir, on arrive à du plus récent quand même. Là, on arrive avec les années 80, 90. J'ai beaucoup aimé, en fait, 80, Hyperion de Dan Simmons. Là, on arrive avec une science-fiction, avec des grosses machines aussi, avec un univers, avec l'équivalent des portes de Vank, mais dans son univers à lui, là, c'est des grandes portes, donc des trous de verre qui réunissent toutes les planètes. Et dans cette histoire-là, il suit 6 personnages, dont l'un est une femme. Puis, en fait, dans toutes les histoires, il y a plus de sensibilité à la psychologie des personnages. Et moi, je suis embarquée à fond. Et, deuxièmement, résolution du problème sans violence. Enfin, il y en a un peu à côté parce qu'il y a eu des guerres, mais la résolution de la grosse menace, c'est une solution très originale. Je ne vous la vends pas, mais ce n'est pas ce que vous vous attendez dans un space opéra. Voilà.
Ouais. J'avais envie de continuer un peu sur... je continue de réfléchir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Sarah, sur... comment est-ce que certaines plumes féminines vont pousser la sexualité loin? Et puis, ça m'interpelle beaucoup, notamment parce que je me suis rendu compte, en faisant un peu des statistiques sur mes propres narrations, puis je serais curieuse d'en savoir pour vous, que j'écrivais peut-être 60 % du temps avec des narrateurs masculins. Et que j'avais d'ailleurs aucune gêne à... Moi, je suis le genre d'auteur qui va écrire un chapitre qui va être juste une scène érotique, ou des fois, ça peut même frôler la pornographie. Et puis... je me disais, peut-être que dans votre façon de narrer aussi, est-ce que c'est vraiment 50-50, vous y pensez pas? Moi, j'y pensais pas avant de regarder ça carrément, la façon de raconter. Puis, est-ce que le fait, je trouve que justement, dans l'expérience humaine, j'ai aucun problème à décrire justement un acte érotique d'un point de vue masculin. T'sais, je trouve que dans la même perspective, un homme peut très bien décrire un accouchement dans un livre. Alors, je serais curieuse de savoir aussi un peu comment, si vous avez déjà remarqué quelque chose par rapport à vos façons de narrer.
Moi, je mets à peu près aussi souvent en scène des hommes que des femmes, je pense. Et puis, j'aime bien écrire à la première personne. Et comme tu dis, ça fait aucune différence. Ça crée pas de gêne particulière de mettre en scène un homme quand on est une femme. De toute façon, on a lu tellement d'histoires avec des hommes que ça paraît aussi assez naturel. Je sais pas si c'est plus difficile d'ailleurs pour un homme de mettre en scène une femme, mais peut-être pas. Mais par contre, ce que j'ai bien noté, c'est les retours qu'on m'a fait. J'aime bien écrire des personnages qui sont plus dans la compréhension, la réflexion, qui essaient de comprendre les cultures, les univers qui les entourent et pas forcément de les transformer, pas forcément d'agir sur le monde. Et en particulier, dans une de mes histoires, le narrateur est un être humain, alors que le protagoniste est un dauphin un peu particulier. Et on m'a dit à propos de ce personnage masculin qui a pour caractéristique d'être assez soumis aux lois de sa société, et on sent bien que peut-être qu'il aurait pu agir autrement, peut-être qu'il aurait pu se donner une chance, peut-être qu'il aurait pu faire une sorte de mini-révolution au moins personnelle, et il ne le fait pas. Il ne l'entrevoit pas, il est résigné. Et en plus, c'est un genre de parfait petit homme d'intérieur, puisque quand il retrouve sa bien-aimée, par exemple, on semble la citer, c'est vrai, je l'ai mis dans le bouquin, il nettoie le vaisseau, il nettoie le bateau sur lequel il se trouve pour qu'elle se retrouve dans un contexte agréable. Et on m'a dit, mais ton homme, il pense comme une femme. Il pense comme une femme puisqu'il se soucie du bien-être et de la propreté de son environnement et qu'il n'essaie pas de transformer le monde qui l'entoure. Oui, tu fais penser à un homme comme une femme. Et ça m'a plongée dans une perplexité absolue. Mais ça dit beaucoup de choses sur les représentations qu'on a, je trouve.
Moi, j'ai tendance à avoir beaucoup de personnages féminins, mais des personnages qui agissent sur le monde. Mais par exemple, dans Technoferry, il y a toute une série d'espèces de fées. Et chez mes fées, le pluriel est féminin. Et je sais que ça a troublé beaucoup de gens à la lecture, qu'au pluriel, c'est toujours féminin, même si ce sont des fées masculines.
Catherine, tu voulais intervenir tout à l'heure.
Oui, moi je m'étais amusée parce que je lis des fanfics. Hein, les fanfics, la plus célèbre, c'est Fifty Shades of Grey. Et c'est assez marrant de savoir, parce que je lisais des fanfics PWP, c'est-à-dire c'est du porno, c'est Fifty Shades. Et alors, comment savoir si c'est écrit par un homme ou une femme? Je me souviens d'un PWP Harry Potter, Severus Snape. Alors c'était du gros boulard, hein, mais il y avait deux indices qui prouvaient que c'était une femme. Petit 1, quand il a été séparé de Harry Potter, Severus bourré de Nutella. Et petit 2, alors ils mettent du sperme partout à partir d'un moment, et ben Severus Snape n'arrête pas d'utiliser des sorts de propre. Et là, je me suis dit, c'est probablement une femme qui a écrit ça.
La propreté n'est pas une valeur masculine significative.
Quand j'ai commencé à écrire, moi, vous savez, j'ai été élevée donc, avec que des bonnes séries, avec des hommes forts puis des femmes faibles, avec quelques exceptions comme Fifi Brin d'Acier. Mes premiers romans, bon, le projet Turiel, je pense qu'il y en reste un ou deux en vente, qui était une reprise de mon premier roman, mais réécrit. Il y a beaucoup plus de personnages masculins, mais qui sont quand même nuancés. Et il y a quand même trois personnages féminins sur, mettons, 12 personnages en tout, là, principaux. Ensuite, piège pour la série Les Voyages de Jules Verne. Là, c'est un vaisseau avec un équipage principalement masculin, mais la seconde, la commandante de bord, qui a un caractère particulier, qui s'appelle le cactus, d'ailleurs. La narratrice est une navigatrice peureuse. Donc, ça a été un gros défi d'écrire ce roman-là, puis de convaincre mon éditeur que c'est pour les jeunes, du jeune adulte, avec une héroïne peureuse, puis très timide, puis qui se sauve du danger, en tout cas au début de la série. Mais elle commence à sortir de sa coquille plus tard. Donc, il y avait encore là le commandant alcoolique qui est désagréable, que tout le monde veut tuer. Là, il va, devient un personnage au cours de la série qui cache des secrets. Donc ça, donc, j'ai tendance à avoir plus de personnages masculins. Dans la quête de chasse, c'est une société qui est aussi avec une basée sur l'Empire romain, mais c'est une société de super jardiniers, mais dont la société est basée sur une méritocratie, mais basée sur la course aux honneurs de l'Empire romain. Alors, l'inspiration étant là. Donc, là aussi, Charles, c'est un adolescent, mais il y a des personnages féminins là, autour, parce que je sais que c'est une série qui était pour les garçons déprimés. Je disais vraiment ça. Adolescent déprimé, je lisais Charles. Mais j'ai mis des personnages féminins qui ont grandi, qui ont pris de la substance autour. Voilà.
Ouais, ce que tu dis, Michel, ça me fait penser, puis je serais curieuse d'entendre les auteurs non québécois autour de la table à ce sujet-là. Dans notre littérature jeunesse SF au Québec, on se fait dire, en fait, ben, je n'ai pas publié en jeunesse, mais j'en connais un certain nombre d'auteurs, qu'on doit présenter des personnages thématiquement en 2016, des personnages féminins qui sont des petites filles fortes. Et même essayer de placer un roman de SF en jeunesse avec un personnage de petite fille passive, ça ne se fait plus vraiment au Québec. Je ne sais pas si c'est la même chose que vous pourriez dire.
C'est très rare maintenant, en français aussi, d'avoir des héroïnes faibles. On a vraiment de plus en plus de femmes tellement fortes qu'elles deviennent irréalistes même.
On a le droit d'être faible quand on est une femme, comme on a le droit de l'être quand on est un homme, il me semble. Pour être sérieuse, je trouve que tous les clichés qu'on a sur la littérature féminine ou la place des femmes ou les valeurs féminines, elles sont tout aussi dommageables pour les hommes que pour les femmes, c'est-à-dire qu'ils sont bien évidemment tout aussi enfermés dans leur rôle et les valeurs qu'on leur attribue. Et c'est tout aussi mutilant. Donc, à chaque fois qu'on lit des romans dans lesquels les héros, qu'ils soient hommes ou femmes, expriment des faiblesses très humaines, moi, ça me réjouit. Si effectivement, on ne devait avoir que des héros forts et des héroïnes fortes, moi, j'aurais plus envie de lire, franchement.
Ce serait très ennuyeux. Mais en même temps, on se retrouve encore aujourd'hui, en 2016, avec des textes d'hommes où le rôle de la femme, qui, je pense par exemple à La petite bulle d'univers de Pierre Bordage, où le héros a une gynoïde à son service, dans son vaisseau. Et elle remplit tous les rôles soi-disant traditionnellement féminins. Elle fait le ménage, elle fait à manger, et elle est là pour se faire baiser.
Et elle prend soin de lui.
Voilà.
En gros, dans l'écriture masculine, on est toujours dans l'excès, et on est dans une transformation, enfin, ou du moins avec les superlatifs, et on est dans une transformation du monde qui se manifeste un peu de manière conquérante ou de toute manière dominatrice.
Juste pour ajouter, j'ai mentionné justement, parfois, tu as des auteurs masculins qui te mettent une héroïne forte dans leur histoire parce que tu dis OK, j'ai une belle femme, puis elle est forte. Alors, il y a John Ringo, qui est aussi un autre joyeux drille de la science-fiction américaine, qui écrit des trucs super sexistes habituellement. Puis à un moment donné, il s'est dit, ah, tiens, je vais mettre une femme forte dans mon histoire. Puis là, il te met une super ingénieure qui a 20 ans, qui est une très bonne pilote et qui est une super blonde en plus, là, parce qu'il y a une histoire avec les blondes dans son univers. Oh my God. Et puis, toutes les autres femmes sont des fatigantes dans l'histoire. Alors, des fois, il essaye, mais on sent que c'est pas naturel. Moi, je n'ai même pas été capable de me rendre au milieu de ce roman-là. Je suis tannée. Alors, mais ça évolue parce que maintenant, on se rend compte que pour les auteurs hommes et femmes, essayer de mettre juste une héroïne physiquement forte, maintenant, on commence à s'apercevoir que ça prend simplement que les personnages soient incarnés, soient humains. Donc, et qu'ils nous touchent, qu'ils soient hommes ou femmes, et ça aide.
Oui, alors, donc ça évolue parce que la société évolue également. Est-ce que ça a un impact maintenant sur la narration, sur l'écriture, par exemple, les descriptions des paysages, sur la manière de raconter plus spécifiquement. Donc on revient peut-être davantage dans l'écriture. Qu'est-ce que ça change peut-être dans la manière de raconter que cette évolution ?
Il y a un aspect dont je ne sais pas du tout si les gens rêvent, c'est la question de la sensorialité. Il y a des auteurs qui sont très clairement sensibles aux couleurs, aux visuels, aux odeurs, à tout un tas d'aspects sensoriels. Mais là, je crois que c'est vraiment lié aux individus. Je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise. Si effectivement les femmes sont plus dans l'harmonie avec ce qui les entoure, dans l'attention, dans le respect, dans le prendre soin, peut-être qu'elles sont aussi plus dans l'attention et étant moins dans l'action. Auquel cas, peut-être, c'est une hypothèse, que leur appareil sensoriel serait un peu plus à l'écoute et que du coup, leur description serait moins technique, moins abstraite, moins cérébrale et plus dans le ressenti. Mais c'est une hypothèse.
Catherine, t'as pas l'air d'accord ?
Mais à ce moment-là, on pourrait presque dire que Jean-Claude Dugnac est une femme.
Tout à fait, absolument. Mais tant mieux que certains hommes ne se soient pas mutilés complètement en ne préservant que les valeurs masculines dans leur, dans leur écriture.
Tout à fait. Alors que, par contre, il y a d'autres auteurs français qui, eux, vont limiter totalement la description. Ils vont être dans l'action, même dans la réflexion, mais par contre, ne vont pas décrire les lieux, ne vont pas décrire les personnages.
On va à l'essentiel.
On va à l'essentiel directement.
Je ne sais pas si c'est l'essentiel, l'action. C'est juste la dynamique.
Ou le côté cérébral. Ouais.
On oublie le décor, on oublie les costumes, on oublie les visages, et on est uniquement dans le récit.
Mais c'est parce que l'auteur...
Justement, tu as dit, je ne sais pas si c'est l'essentiel, l'action, et puis moi, spontanément, je trouve que l'essentiel, justement, va se baser sur les décors, les réactions, puis ensuite, l'intrigue, puis du moins, personnellement, je travaille beaucoup à partir des descriptions, des lieux, et ensuite, on a l'action. Alors,
et moi, je travaille beaucoup sur l'émotion, le ressenti, et puis après, il y a peut-être de l'action ou pas, mais ce n'est pas essentiel à mes yeux, l'action. Tu vois, tu as eu une réaction très masculine.
J'essaie de définir,
donc l'essentiel.
Ce n'est pas ma réaction,
j'essaie
de définir l'écriture
D'accord.
masculine.
Mais c'est
avec
bien,
vous.
Ça nous fait réagir.
Voilà. Moi, je travaille beaucoup dans le sensoriel, mais par contre, je dois me forcer pour la description. Ça ne me vient pas facilement. Donc, je trouve des trucs. J'ai écrit une nouvelle en couleur pour être sûre d'avoir des descriptions et d'équilibrer dialogue, action et description.
Question de démarche, moi, au contraire, je dois couper. Je suis le genre d'auteur qui va écrire une balade en forêt pendant 12 ou 15 pages. Et puis ensuite, à un moment donné, on a compris les types d'essence d'arbres et puis tout ça. Donc, il vaut mieux revenir à l'essence.
Oui. Faut voir un roman comme une piscine. Tu plonges dans la piscine. Au début, c'est froid. Il faut que tu te sauces. Et tu mets au début de tes scènes, là, tu vas dans la description parce que l'impression que le décor fait sur le personnage que tu suis dans l'histoire. Et là, il faut que tu en mettes. Mais après ça, plus loin dans l'histoire, tu l'as décrit ton personnage, tu as décrit le décor ou la scène, là, tu peux aller dans l'action. C'est que là, tu t'es saucé dans la piscine, puis tu t'es habitué à la température de l'eau, puis là, tu peux commencer à nager. Alors, c'est un peu comme ça que je voyais les descriptions de romans.
Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire ou de réécrire un roman masculin qui vous aurait séduit dans l'histoire, de le réécrire à votre manière, et qu'est-ce que vous auriez changé là-dedans ?
Moi, c'est vrai quand j'étais gamine. Mais quand j'étais gamine, ce n'étaient pas les mêmes bouquins qu'on avait en main. Les premiers livres que j'ai lus et dans lesquels je me suis totalement immergée, mais j'étais vraiment petite, c'était Le Capitaine Nemo, Jules Verne. Je me suis réécrit mentalement une quantité de fois le Nautilus, mais c'était moi qui étais dedans. Parce qu'il n'y avait aucune femme dedans qui se projetait, qui avait la moindre importance dans l'histoire. Et il y avait Langelot, agent secret. Moi aussi, j'avais droit à une carte du SNIF. Et moi aussi, je pouvais être... Et là encore... moi, les histoires qui me faisaient rêver, mais je ramène bien ça à l'époque où j'étais petite. C'est plus du tout vrai maintenant. Maintenant, je ne lis... La science-fiction s'est élargie et ce problème spécifique qui est de la difficulté à s'incarner dans un univers et dans un récit quand on est une femme, je ne le ressens plus maintenant. Il y a suffisamment d'auteurs femmes et suffisamment d'auteurs hommes qui ont compris la place des femmes. Mais moi, j'ai grandi, je suis vieille, j'ai grandi dans un univers où dans les univers décrits, il n'y avait aucune dimension féminine, d'aucune sorte. Et c'était à nous de la construire.
J'ai eu de la chance, le premier roman de science-fiction que j'ai lu, c'est Le Vagabond de l'espace de Robert Heinlein. Et il y avait une fille, et elle était dans le vaisseau spatial, elle. Mais oui, je crois que quand on était enfant ou adolescente, on est à part Ariane, on est à peu près toutes de la même génération. On s'est rêvé à la place des héros, à la place des héros masculins souvent. On s'est inventé des histoires d'espions. Moi, quand j'étais enfant, je voulais être espionne, je voulais être aventurière, je voulais vivre toutes ces choses que je lisais.
Oui, moi, j'avais lu La poursuite des Slans de Van Vogt. Et les Slans, ils sont beaux, ils sont supérieurs. Au début, ils sont cassés la figure par les humains, puis à la fin, ils détruisent les humains. Et j'avais réécrit la fin qui m'énervait, en imaginant une héroïne humaine qui arrive à casser la gueule des Slans. Déjà, c'est...
Ouais. Moi, j'en ai tellement lu, je peux dire que mais j'ai eu de la chance avec la première nouvelle que j'ai, le livre que j'ai lu, c'est Les robots d'Isaac Asimov. Donc, il y avait le docteur Suzanne Calvin dedans. Alors, déjà, j'avais une scientifique, même si elle était décrite comme froide, étant donné les préjugés de l'époque. Mais oui, il y a plusieurs livres comme ça que j'ai réécrits dans ma tête. C'était surtout. Quand il y avait des fins ridicules ou que tout le monde se tuait à la fin, puis moi, ma sensibilité de femme, j'aime pas ça quand du monde se tue pour presque rien. Alors là, je changeais les conversations pour essayer qu'est-ce que l'héroïne aurait pu dire pour éviter de se faire tuer par tel personnage ou qu'est-ce que le gars aurait dû dire pour éviter d'avoir à déclencher la guerre totale qui va tout finir. Alors voilà, c'était...
Du point de vue de la science-fiction, je pense un peu au premier Blade de la série. Là. Il me semble que si j'avais à réécrire ça, ça serait un petit peu... Il y aurait un petit peu moins de supériorité masculine là-dedans, avec Blade qui réussit toujours à s'en tirer, mais...
Blade? Oui. Blade Runner?
Non, c'est pas ça. Là. Oui.
Je vois très bien ce que tu veux dire. Il y a tout un tas de séries, de romans de guerre,
oui,
romans d'espionnage ou romans de presque super-héros. Et de temps en temps, oui, on aurait envie de faire la même chose, mais avec une femme à la place.
Ouais, ou d'équilibrer un peu plus. Ou sinon, petite parenthèse non-SF qui s'inscrit un petit peu dans mon enfance à moi, le roman gothique. J'avais envie de secouer les héroïnes de Anne Radcliffe en disant « Oh, ça va faire, là, arrête d'avoir peur des brigands comme ça, un peu de courage, hein, puis la forêt n'est pas si effrayante que ça la nuit.
» Bon, la dernière fois où ça m'a profondément énervée, c'est pas si vieux que ça finalement, c'est quand j'ai regardé Avatar. Parce que Avatar, il y a un peuple qui a une culture, un environnement d'une richesse extraordinaire. Il y a une femme qui est à l'aise, forte, courageuse, un très beau modèle de femme dans ce film. Et puis, il y a une espèce de blanc-bec qui arrive, qui ne connaît rien, qu'elle prend sous sa protection, à qui elle apprend tout. Et puis, paf, il va devenir le grand chef et tout le monde va se mettre derrière lui, elle y compris, et tout le monde va se mettre à genoux devant lui parce que c'est l'homme providentiel. Et il n'a aucune compétence et aucune qualité particulière pour ça, à part le fait que c'est lui l'humain. Et du coup, le fait que ce soit lui l'homme, donc meilleur, et lui le mal en même temps, j'y ai retrouvé tout ce qui était profondément énervant.
Moi, dans Avatar ?
Ce qui m'énerve dans aussi, Avatar. C'est la plupart du temps, dans les romans masculins, il n'y a pas de femme laide.
Oh, t'as remarqué ?
Après 40 ans, elles y sont plus de toute façon.
Voilà. Mais c'est comme au cinéma.
Les robots d'Asimov.
C'est comme au cinéma. Il n'y a pas de femme laide.
Suzanne Calvin, la femme la plus sexy du monde.
Oh, dans le film, oui. Hein ?
Oui, pour Avatar, moi, je suis parfaitement d'accord. Moi, j'aime beaucoup ce film. Enfin, à la fin, c'est quand même le mâle blanc qui se met à dominer le peuple indigène, c'est insupportable. Et je voulais revenir sur ce que tu disais, c'est effectivement dans un défilé de robots d'Asimov, Suzanne Calvin, c'est une psychologue pour robots, donc elle a un diplôme, donc elle est sexuellement, socialement incompétente. À un moment, elle a le malheur de tomber amoureuse d'un collègue, tout le monde se fout de sa gueule parce qu'elle met du rouge à lèvres, et que lui, il a déjà une vraie femme, c'est-à-dire une femme qui n'a pas de diplôme.
Une vraie blonde, en plus.
Mais ça date des années 50, donc ça a un peu évolué depuis quand même. Alors moi, la première femme forte que j'ai vue en SF, c'est-à-dire elle était à la fois belle, intelligente, marrante, elle a réussi à avoir un diplôme tout en ayant une vie sexuelle, c'est Yoko Tsuno, donc c'est en BD, c'est pas un roman.
Et voilà. Sigourney Weaver.
Les modèles culturels ont évolué, quoi. Je voudrais revenir sur un autre point. Tu avais un petit peu évoqué le test de Turing, si on veut, pour savoir, lorsque l'on lit un texte sans savoir le genre de l'auteur, est-ce que l'on peut savoir si c'est un homme ou si c'est une femme ? Apparemment, tu avais répondu. Et maintenant, de parler de l'écriture à quatre mains, lorsqu'il y a une collaboration entre un homme et une femme. Qu'est-ce que l'on peut voir dans le...
Juste avant, un tout petit point, parce que ça, vous venez juste de l'évoquer. C'est ce que j'appelle le delta T, le laps de temps. Et entre autres, parce que ça a longtemps distingué mes amis auteurs, le delta T pour la recherche que tu fais avant ton roman, la plupart des confrères, ils semblent avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps libre. Alors, mon voisin de ville à Mississauga, Robert G. Sawyer, qui est un auteur américain dont le livre Éveil, veille et merveille a été traduit en français, il prend 2 ans et il fait de la recherche de malade pour son roman que je n'ai pas le temps et que beaucoup de femmes auteurs n'ont pas le temps de faire. Alors, je ne parle pas de mon confrère Peter Watts, que ça prend un dictionnaire quand tu lis son roman parce que tellement qu'il y a des notions biologiques pétées dans ses histoires. Donc, c'est un aspect que j'ai remarqué, mais c'est une qualité. Moi, je suis fière qu'il fasse de la recherche et puis qu'il arrive avec des belles idées, des bonnes histoires. Parce que Robert G. Sawyer, en passant, c'est un auteur qui est très... Il y a des personnages féminins fantastiques. Tous ces personnages sont très humains. Donc, on s'attache à ces personnages. Alors, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais à la fin de son roman, il t'envoie sa liste d'à peu près 20 à 30 ouvrages. Il dit « Ah, ben j'ai lu là-dedans, là-dedans, là-dedans. » Et puis, pour en savoir plus. Puis là, tu t'aperçois « Wow! » Ça y prend 2 ans pour écrire un bon livre, là, mais ça, c'est quelque chose où on peut parfois deviner s'il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de recherches. Si ça, c'est quelqu'un qui avait une épouse compréhensive ou qui avait beaucoup de temps libre.
J'aime beaucoup la question sur l'écriture à quatre mains, justement. Et puis, j'espère avoir l'occasion d'écrire plus souvent comme ça. Je l'ai fait dans le cadre d'une nouvelle de science-fiction lycanthropique. Et dans laquelle j'ai travaillé avec un autre auteur québécois qui s'appelle Guillaume Voisine. Et puis, de la façon dont on a travaillé, je pense que ça dépend beaucoup de la façon de travailler, on est repassé sur le texte sans arrêt jusqu'à temps qu'on le juge satisfaisant les uns, lui et moi. Et à un point tel que sa compagne de l'époque, elle a lu le texte, c'était certaine des parties qui venaient de Guillaume, et elle s'est trompée, en règle générale, sur les phrases, tellement tout ça avait été unifié. Et on parle même pas d'écriture avec un conjoint, c'est tout simplement de... Je pense que le travail aussi, donc peu importe les genres de l'auteur, dans cette façon-là de travailler. Bien entendu, je ne fais pas référence à un chapitre sur deux, là, peut-être qu'on pourrait le repérer.
Pareil, moi, j'ai écrit avec mon conjoint, j'ai écrit une nouvelle avec Ayurdal, mais en même temps, c'est facile. Ayurdal était un auteur féministe dont les personnages féminins étaient très réalistes. Donc, c'était facile. Mais à nouveau, oui, on a tellement travaillé ensemble, on est tellement repassé l'un sur l'autre, sur le texte de l'autre, dans tous les sens, que personne ne peut deviner qui a écrit quoi.
L'autre réaction ? Il va falloir se dépêcher, puisqu'on arrive vers la fin, et laisser peut-être le public poser quelques questions.
Bonjour. Merci pour cette intervention très, très enrichissante. Et j'aurais deux questions à vous poser qui sont complètement différentes. La première, c'est que je suis professeure de français et du coup, ça m'arrive de faire régulièrement des travaux d'écriture avec mes élèves et je me demandais comment faire pour contrecarrer justement les réflexes que les enfants peuvent avoir dans leur écriture et qui pourraient orienter vers une écriture qui serait orientée vers les mécanismes plus masculins. Et ma deuxième question, c'est que dans Un lieu à soi, Virginia Woolf, elle fait la comparaison entre les sœurs Brontë et Jane Austen en disant que les sœurs Brontë, elles écrivent toujours en opposition aux hommes et qu'elles se réfèrent souvent en opposition aux hommes. Et elle dit au contraire que Jane Austen s'affranchit complètement et qu'elle est dans sa propre écriture et qu'elle n'est plus dans cette comparaison quand elle écrit. Du coup, je me posais la question si ce serait... ça ne ferait pas plus sens, et en même temps, c'est une question que j'aime pas beaucoup, est-ce que ça ne ferait pas plus sens de renoncer à une opposition entre écriture masculine et écriture féminine, tout en sachant que c'est très intéressant d'identifier les mécanismes pour les comprendre et répondre à cette question.
Mais je crois qu'aucune d'entre nous ne souhaite être coincée dans une écriture masculine ou féminine. Aucune d'entre nous ne considère qu'elle écrit comme une femme parce qu'elle est une femme. Je vais me référer à une philosophe française qui s'appelle Belinda Cannon, qui a une phrase que j'aime beaucoup, qui dit qu'il n'y a que dans la séduction et parfois dans l'acte sexuel que nous sommes véritablement sexués. Quand nous sommes en train d'écrire, quand nous sommes en train de cuisiner, de jardiner, de travailler, nous sommes juste des êtres humains.
On ne tient pas le stylo avec notre vagin.
Et par rapport à l'autre question, moi, ce que je ferais, c'est proposer aux élèves féminins d'écrire du point de vue masculin et aux élèves masculins d'écrire du point de vue féminin pour essayer de dépasser ça.
Très bonne.
Je peux faire une brève réponse. Alors, Jane Austen et les sœurs Brontë, à mon avis, c'est pas la différence homme-femme sur qui les intéresse, c'est la question de l'ordre social et de tout ce qu'il impose et de tout ce qu'il mutile dans les trajectoires individuelles. Et puis, sur la question... c'était quoi, ça y est, j'avais autre chose à dire qui était super bien.
Comment dépasser le genre dans l'écriture?
Oui, comment faire écrire en dépassant élèves. La question du genre? Pour moi, ce qui me semble intéressant, en tout cas, on l'a au moins expérimenté une fois avec une classe de Jeanne de Batz, c'est de faire travailler les élèves, les jeunes, sur la question du point de vue. C'est-à-dire leur faire prendre une histoire et leur faire raconter la même histoire du point de vue de celui qui n'est pas le narrateur dans le premier jet, du protagoniste. Après, la question du genre devient secondaire, mais c'est l'autre qui parle.
Puis pour moi, la grande différence entre Austen et Sœur Brontë, c'est pas tellement le genre, c'est social. Alors, je dis pas que Jane Austen a eu une vie facile, mais Sœur Brontë, il y en a quand même deux, leurs deux sœurs aînées qui sont mortes de faim. Voilà, donc on en a... Oui, elles étaient quand même à la limite du misérable, ce que Jane Austen n'était pas tout à fait.
J'ai donné dans un atelier des exemples pour des jeunes, là, comme garçons, filles. Je disais, ben là, regardez, mais là, c'est parce que je ne veux pas prendre trop de temps là-dessus, mais j'ai pris l'exemple comme d'une game de hockey, puis d'un côté, puis mettons, production d'une pièce théâtrale ou d'un spectacle de l'autre côté. Puis là, j'expliquais que ben, si tu perds ta game, ta partie de hockey sur une décision d'arbitre enrageante, la rage que le personnage va ressentir, c'est la même chose que la fille qui a bien préparé son spectacle de danse, là, et puis soudain, elle apprend que le spectacle est annulé. Et je leur ai expliqué, ils ont compris que l'émotion du personnage était la même. Voilà.
Il y avait une question là-bas tout à l'heure. Oui,
oui moi, je voudrais revenir sur ce que, Sylvie, tu disais sur la sensibilité et la sensorialité aussi. Et je voulais faire un peu le lien avec ce qui a été discuté dans pas mal de tables rondes hier sur la responsabilité de l'auteur de SF sur le public et ce qu'il peut dire, etc., l'héritage qu'il laisse. Et moi, je travaille dans l'environnement et je suis fan de SF. Et il n'y a pas longtemps, je suis tombé dans l'écoféminisme. Et en fait, ça m'a changé complètement un angle d'attaque sur la gestion de la planète, des ressources, etc. Et comme quand on avait une vision, au final, très masculine depuis l'industrialisation, le capitalisme, etc., sur les ressources, le rapport à la nature qu'on avait. Comment ça définit les politiques de gestion de l'environnement, etc. Et du coup, je voulais savoir un peu votre avis sur ça, parce que du coup, j'aimerais qu'il y ait de la science-fiction en termes, justement, responsabilité de l'auteur, soit c'est des auteurs féminins ou alors masculins, mais qui est une science-fiction qui soit beaucoup plus sur le lien terre-nourricière, mère-nourricière, et qui pour moi fait le lien avec l'écoféminisme et qui est un vrai... Voilà, si on veut aussi que la science-fiction aide un peu à changer les choses sur ce niveau-là, sur l'effondrement apocalyptique, etc., du positivisme, que ça serait peut-être vers ça qu'il faudrait se tourner. Ouais.
Je dirais Paolo Balcigalupi, La fille automate.
Oui, oui. Je suis entièrement d'accord avec ça, et je pense que non seulement il faut que la science-fiction se fasse le porte-parole de valeurs qui ne sont pas suicidaires à court terme, contrairement à celles qu'on met en place actuellement de consommation, de qu'on pense respect de notre environnement vital, même ne serait-ce que dans notre intérêt à nous, c'est une priorité. Et j'ai aussi oublié ce que je voulais dire après. Oui, il n'y a pas que la science-fiction pour lesquelles il faudrait que les femmes aient un mot significatif à dire. Il y a la politique aussi. Surtout la politique, peut-être.
Il y avait une question par là aussi, oui.
Bonjour et merci pour cette table extrêmement intéressante et drôle aussi par moments. Alors, on a parlé rapidement aussi des différents types de personnages féminins qui peuvent exister, que ce soit en littérature, en BD ou au cinéma. Et bon, alors, soit c'est la figure lointaine de la mère, soit c'est le prodige scientifique mais froid, prodige stratège, si possible jeune, belle, blonde et sexuée. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez un exemple de personnage féminin de femme mais qu'on aimerait détester, dire méchant parce qu'elle veut être méchante, elle est bourrue, elle est comme on pourrait avoir, je sais pas moi, un Voldemort, une femme
cruelle,
mais en science-fiction, quoi, qui veut conquérir le monde parce que bah pourquoi pas, comme on a plein de personnages masculins qui aimeraient le faire. Merci.
Il y a une nouvelle de Paolo Balcigalupi dans le recueil La fille flûte et autres fragments de Futur brisé, qui s'appelle justement La fille flûte, où le personnage de Madame Bellamy est vraiment le genre de femme qu'on adorerait détester.
Dans les voyages de Jules Verne, ben, c'est pas vraiment une méchante. Elle commence, le second du vaisseau s'appelle le cactus, puis c'est pas pour rien.
Il y avait une question là, oui.
Il y a aussi le Melkin d'Olivier Paquet. Et c'est une méchante. Enfin, on ne sait pas trop, mais je ne l'ai pas fini.
Bonjour. Donc, tout d'abord, merci pour cette conférence, encore une fois. Donc, je voulais vous demander, donc là, on parlait beaucoup d'auteurs, et du coup, on n'a pas beaucoup parlé d'édition, et on sait que l'édition, ça peut être très politisé. Et du coup, est-ce que vous avez des expériences ou des anecdotes sur le sexisme dans l'édition qui fait que le lecteur après peut être touché dans sa lecture.
Ben, il faut savoir qu'en science-fiction, en tout cas en France, il y a un certain nombre d'éditrices. Et moi je n'ai jamais rencontré ce sexisme en tout cas, mais j'ai beaucoup travaillé avec des femmes aussi.
Moi, je vais répondre aussi pour le Québec. En fait, travaillant dans le milieu de l'édition, j'ai l'impression d'être même plus entourée de femmes dans le milieu de l'édition. Alors, je n'ai pas perçu ça.
Sous-payée, d'ailleurs.
Moi, j'ai eu affaire à des hommes, mais qui n'étaient absolument pas sexistes dans le milieu de l'édition. J'ai rencontré beaucoup plus de sexisme du point de vue d'un éventuel futur potentiel lectorat. Pas d'un vrai lectorat, mais de gens qui avaient des a priori avant d'avoir lu. Mais jamais chez les éditeurs. Jamais.
Oui. Oui, c'est les a priori, le formatage, la reproduction, et puis voilà, oui, c'est ce contre quoi il faut lutter.
Les éditeurs, eux, ils lisent les manuscrits, donc ils ont moins d'a priori.
Oui, mais enfin, quand on regarde les lauréats des prix, vous faites une moyenne, vous verrez qu'il y a, je ne sais pas moi, sur son Goncourt, il y a combien de femmes ? Sur son prix Nobel de littérature, il y a combien de femmes ? Je pense que c'est la même chose aussi pour les prix.
On a pensé science-fiction, mais si on élargit, le raisonnement change.
Mais sur les prix de science-fiction, je ne suis même pas sûre non plus qu'il y ait vraiment une parité. L'écrémage se fait assez facilement et se fait aussi pas mal par les femmes. Parce que si les femmes n'étaient pas les premières personnes misogynes, on serait les maîtresses du monde depuis le temps.
Un peu ça. Il y a aussi l'invisibilisation, la timidité et tout. Parce que là, on a... exemple, non science-fiction, la première sélection d'Angoulême cette année, il avait trouvé 30 auteurs de BD masculins qui étaient là, qui, à leur tableau d'honneur, puis il n'y avait aucune femme. Puis ils disent, oui, mais c'est parce que leur truc ne se vend pas ou tout. Ouais, enfin, Et finalement, on se rend compte que c'est parce que souvent, les femmes BDistes, on tient des blogs plus qu'on publie des albums.
Mais par contre, cette année, dans le jury du prix d'Angoulême, il y a une véritable parité.
Oui. Et moi, j'avais été invitée, je crois, l'année dernière à un salon dont je ne donnerai pas le nom, où je devais parler anticipation et prospective. Et sur scène, il n'y avait pas une femme, mais juste zéro. Donc j'aurais dit, moi je viendrai pas faire l'alibi, j'en ai marre. Et elles m'ont répondu, mais enfin on n'est que des femmes organisatrices, voilà. Et j'aurais dit, bah oui, enfin je sais pas, arrêtez de tendre le micro aux hommes et prenez-le vous-même. Je viendrai pas faire l'alibi, donc je n'y suis pas allée. Il n'y avait que des hommes sur scène pendant deux jours.
Catherine, juste faire un mea culpa. Alors quand tu dis, même moi j'ai de la difficulté à nommer des femmes auteurs de bandes dessinées par rapport à, justement, Benny Bergeron et les copains qui font de la science-fiction. Et c'est un phénomène un peu d'invisibilisation. On tend à ne pas voir le travail, soit des femmes ou des gens qu'on considère comme pas des vrais, selon nos choix culturels. Fait que je vais juste le dire, moi aussi, des fois, j'aurais pas tendance à... J'ai la difficulté à nommer. Simplement parce que j'étais élevée avec toute la grosse science-fiction classique, avec des gros appareils, avec des gros projets.
Mais il y a eu une grosse évolution quand même. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand je suis arrivée dans le milieu de la science-fiction il y a 18 ans, on était 7 ou 8 femmes. Aujourd'hui, on est beaucoup, beaucoup plus nombreuses. Est beaucoup plus présente et on nous donne la possibilité de parler, on nous donne la possibilité de faire les choses. Et ça a énormément changé.
Moi, je me souviens d'un salon que je ne citerai pas non plus. On était avec Sylvie, où il y avait une super table ronde de la science-fiction féminine, c'est ça ? Il n'y avait pas une femme qui était invitée sur l'estrade.
On en a fait pas mal sur la science-fiction féminine. Ouais. Parce qu'en général, quand on invite quelques femmes à Libye dans un... Enfin, ça passe, c'est en train de passer, mais souvent, on nous invitait... Parce que, tiens, de quand on pourrait faire parler les femmes ? Ah ben, on va les faire parler de la science-fiction féminine.
Mais tu te souviens, il n'y avait même pas une seule femme qui était sur l'estrade, et nous, on était au premier rang à leur jeter des cacahuètes.
Oui, oui, oui. C'était uniquement des hommes. Je crois qu'on est un peu dans l'esprit d'équilibrer ce lourd passé, cet héritage.
Très bien, eh ben, je vous remercie toutes. Je pense qu'il faudrait aussi remercier le partenariat qui a pu s'établir avec le Conseil des arts et lettres du Québec et le Conseil des arts du Canada, qui nous a permis de recevoir nos représentantes du Québec. Et bien sûr, vous pourrez retrouver...